continue. Le pape a pu concélébrer hier la messe pour la Saint-Joseph.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
On verra ce qu'il en est de la proposition d'Alain Sker à Elisabeth Borne. On suivra les choses évidemment de près sur notre antenne. Sachez que vous pouvez évidemment participer à ce débat en utilisant les deux adresses qui sont à votre disposition, direct@rcf.fr ou direct@radionotredame.com, qu'il s'agisse des questions que nous avons débattues autour de l'enseignement privé sous contrat, ou bien du sujet que nous allons aborder à présent, qui est la situation à Gaza. C'est vrai que nous y revenons aussi régulièrement. On a essayé de trouver un angle un petit peu différent peut-être ce matin, c'est de savoir comment se positionner dans les médias où les avis sont extrêmement tranchés. Vous avez des médias qui sont à fond pro-Israël, d'autres qui sont à fond pro-palestinien, et on a l'impression nous d'être un petit peu pris au piège entre les deux, parce que je ne sais pas quelle est votre position à la Croix, vous allez peut-être nous l'expliquer, Père Arnaud Alibert, justement, comment
l'équilibre et la modération.
Ben oui, c'est difficile à tenir comme ligne. C'est difficile à tenir, non ?
C'est difficile à tenir parce que c'est difficile à mettre sur une même page et encore plus dans une même salle de négociation des personnes qui s'opposent aussi radicalement. Mais le dispositif, si vous voulez, actuel, de quand même donne des marges de manœuvre à ceux qui veulent essayer d'avoir un regard objectif. Objectivement, ce qui se passe, c'est que le retour, en fait, la rupture du cessez-le-feu, donc le retour des bombardements sur Gaza,
y compris tôt ce matin,
n'a pas de justification géopolitique aujourd'hui. Donc il s'agit pas de dire qu'on prend parti pour l'un ou pour l'autre. Ce qui est le plus probable dans cette affaire, c'est il y a évidemment un ras-le-bol de la population israélienne de voir qu'il y a encore des otages qui sont maintenus aux mains du Hamas, mais l'histoire a prouvé depuis maintenant plus de 15 mois ou 18 même que les bombardements ne produisent pas la libération. Donc, il est très difficile de justifier les bombardements actuels sur le fait qu'en bombardant, on va obtenir la libération. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que le gouvernement Netanyahou, qui est en panne de majorité, a besoin de solidifier sa coalition et donc a besoin du retour au gouvernement, lequel a démissionné récemment, quand il y a eu le cessez-le-feu de Itamar Ben-Gvir, qui est l'ancien ministre de la Sécurité nationale, qui avait posé trois conditions à Netanyahou. La première, c'était la suspension de l'aide humanitaire à Gaza, qui est intervenue le 2 mars, et le 9 mars, la suspension de la fourniture d'électricité. Il avait demandé le limogeage du chef du Shin Bet, il l'a obtenu dimanche. Il avait demandé enfin la reprise de la guerre, il l'a obtenu lundi. Donc là, maintenant, les portes sont ouvertes pour que Ben-Gvir rentre au gouvernement, et c'est donc bien un objectif politique interne. Je crois qu'on peut dire ça en toute dans une certaine objectivité qui est l'une des raisons peut-être majeures du déclenchement en fait des bombardements nouveaux depuis la nuit de lundi à mardi.
Et donc les Gazaouis sont les victimes, j'allais dire collatérales, d'un calcul politique israélien interne à la vie israélienne. On peut le présenter comme ça.
J'ai peur que ce soit même pas collatéral, que ce soit les victimes choisies, voulues, et c'est ça qui est effrayant.
Philippe Guibert.
Oui, d'abord on n'a pas à choisir nos victimes. Vous parliez de l'objectivité, j'aime pas tellement le mot parce qu'il y a pas d'objectivité, mais il y a l'honnêteté et puis il y a l'humanisme. On n'a pas à choisir nos victimes et donc on doit pleurer avec la famille Bibas lorsqu'elle récupère le corps des deux enfants et de la mère, les deux enfants ayant été tués, non pas par des bombardements israéliens, mais par des terroristes du Hamas. Et on doit pleurer avec eux. Et on doit pleurer avec les familles des victimes du bombardement d'il y a deux jours, qui a fait des centaines de victimes. Et qu'on ne doit évidemment pas invisibiliser. Donc la première réaction, me semble-t-il, quelles que soient nos préférences, c'est d'abord de ne pas choisir les victimes et de ne pas privilégier des victimes. Toutes les victimes, c'est
horrible. Complètement raison. Mais pourquoi cette attitude ne prévaut-elle pas si peu dans les médias ?
Non, vous avez complètement raison. Les médias sont très partagés là-dessus et beaucoup trop clivés. Disons que il y a eu dans un certain nombre de médias une réaction de solidarité avec Israël, que je trouve légitime dans la mesure où, après le 7 octobre, la réaction, la réplique israélienne était non seulement compréhensible, mais légitime. Il y a eu ensuite une difficulté me semble-t-il, je vous donne mon point de vue tout à fait subjectif, il y a une difficulté à prendre en compte le fait que cette réplique, pour aussi légitime soit-elle, n'importe quel pays aurait réagi de cette façon-là, il y avait besoin d'avoir cette réaction. La durée de cette réplique, les modalités de cette réplique, le mélange avec des questions de politique intérieure israélienne, vous y avez fait allusion, enfin plus qu'allusion, il est évident qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, cette reprise de la guerre de la part du gouvernement israélien a des causes internes à la démocratie israélienne, au gouvernement israélien, à la majorité, et d'ailleurs suscite des manifestations très importantes, il faut le souligner. Tout Israël n'est pas derrière Netanyahou. Exactement. Il y a des manifestations très importantes, et on peut critiquer le gouvernement israélien, et je serai critique à son égard aussi, mais en rappelant toujours qu'il y a une démocratie israélienne, et que Netanyahou, il est contesté par une moitié des Israéliens. D'ailleurs, il est minoritaire dans l'opinion. Donc, il y a eu une difficulté de la part des médias à trouver le ton juste entre la condamnation qui me paraissait hyper importante à avoir du Hamas et des crimes de contre l'humanité qui ont été commis le 7 octobre et qui ont été commis à l'égard d'un certain nombre d'otages depuis, et aussi la critique qu'on peut avoir du gouvernement israélien. Cet équilibre-là était très difficile à trouver, et on ne l'a pas globalement trouvé, soyons honnêtes.
Ferrat Liber.
Oui, Philippe Guibert, je ne peux que vous donner raison. Je pense que l'une des difficultés, c'est de garder en mémoire la douleur du 7 octobre chez les Israéliens. Cette douleur, il faudra des années, il faudra que l'histoire se penche en fait là-dessus, et après des générations en fait. L'histoire commence quand le dernier survivant est décédé. Parce qu'il y a eu en Israël en fait le projet. En fait, israélien a été vraiment profondément meurtri. L'âme du peuple a été touchée. Donc, la difficulté pour nous, c'est de faire remonter à notre esprit cette douleur-là quand on aborde l'actualité. Parce que puis, il y a les 40 000 morts, et plus de 40 000, peut-être 50 000, je ne sais plus combien on en est aujourd'hui, sans doute 50 000 maintenant, de morts côté Gazaoui, qui en fait écrase la mémoire par le sang versé côté palestinien. Donc essayons toujours de garder en tête que pour les Israéliens, la plaie est extrêmement vive. Et deuxièmement, Israël est une démocratie en ce moment en guerre, donc qui a aussi ses difficultés, ses problèmes de juges, etc. Mais quand même, avec une opinion publique qui n'est pas derrière le gouvernement. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on peut quand même assez clairement juger durement la politique de Netanyahou sans apparaître ni antisioniste, ni antisémite, ni quoi que ce soit d'autre, ne serait-ce qu'en relayant la parole de la principale association des parents de victimes qui aujourd'hui en fait manifeste et contre la reprise des bombardements.
Philippe Guibert, vous avez d'autant plus raison que par exemple le survivant de la famille Bibas, martyr, était à la manifestation, était à certaines manifestations. L'association des victimes est très opposée à la politique de Netanyahou, en reprenant d'ailleurs l'argument que vous avez utilisé, qui est de dire que ce n'est pas les bombardements qui ont fait libérer les otages. Et que toutes les familles, tous les témoignages des otages survivants, il n'y en a hélas pas beaucoup, disent quand même que les bombardements ont été une de leurs craintes. Et donc les familles d'otages et autour une bonne partie de l'opinion israélienne considèrent que cette reprise des bombardements de façon extrêmement brutale et meurtrière il y a deux jours n'est pas la bonne politique. Et donc si j'avais une pointe de polémique à faire,
allez-y Philippe.
Je dirais. La démocratie israélienne permet l'expression des oppositions à ce gouvernement qu'on peut critiquer, qui a des alliances à l'extrême droite, qui l'envoie dans une dérive guerrière permanente. Mais dans la démocratie israélienne, un jour il y aura des élections, et aujourd'hui on a une opinion publique qui est majoritairement contre Netanyahou. Côté palestinien, j'aurais aimé, mais c'est très compliqué, savoir exactement quelles sont les oppositions au Hamas. Ça ne justifie en rien que des enfants, que des familles soient tués par des bombes. Mais la réalité est que le Hamas aujourd'hui, qui est une organisation terroriste, qui est une organisation fondamentalement antisioniste et antisémite, est aujourd'hui dominante, me semble-t-il, dans l'opinion palestinienne.
Donc il n'y a pas de symétrie entre les deux camps, parce que...
Je ne peux pas faire une symétrie entre les deux camps. Je pense qu'on peut faire une symétrie sur les victimes, parce qu'on n'a pas à choisir les victimes. Et on a à rendre hommage à toutes les victimes et à respecter profondément la peine de toutes les victimes. Mais je ne ferai pas une mise en équivalence de la démocratie israélienne et d'un système qui est terroriste et quelque peu totalitaire dans l'emprise qu'ils ont sur la... que le Hamas a sur les populations.
Père Alibert.
Oui, c'est l'une des, clés de la difficulté. C'est que quand on regarde côté palestinien, le Hamas qui est là, en fait à Gaza, qui est la seule structure politique qui reste, qui émerge en fait, est plus qu'infréquentable en fait. C'est-à-dire que c'est, il y a dans le Hamas, pour qu'on reprenne bien, dans le Hamas, il y a une partie militaire terroriste là qui n'est pas infréquentable, c'est du terrorisme. Donc là, on sait le classer. Il y a une autre partie qui a assuré une forme de service public du temps de l'administration par le Hamas de Gaza, avec des critères évidemment qui étaient extrêmement idéologisés, donc ça c'était pas du pur, si vous voulez, bien commun, hein, on est d'accord, mais qui avait quand même une forme de soutien à la population, donc qui a acquis au fond, ou qui a endormi la critique contre le Hamas. Il y a à peu près la même critique qui peut être faite contre le Hezbollah au sud du Liban.
Absolument.
Là aussi, il a pris en charge une partie du service public défaillant, et donc c'est attiré au moins la modération, si ce n'est l'approbation d'une partie de la population. Mais maintenant que tout cela est par terre, il n'y a plus que le Hamas, et en fait, on voit bien que le Hamas lui-même complique les négociations actuellement. C'est-à-dire que le gouvernement israélien a beau jeu de dire que les négociations avec le Hamas pour la libération des otages patinent.
Père Alibert et Philippe Guibert, que peut-on dire du fait que on dit démocratie israélienne, oui, mais au bout du compte, c'est toujours l'argument sécuritaire qui semble l'emporter dans la direction du pays, malgré une forte opposition sociétale qui a déjà pu se manifester par le passé, hein, ça fait longtemps. Comment se fait-il? Ça peut s'expliquer par la peur, hein, ça je suis bien
et
d'accord.
Puis une peur qui n'est pas tout à fait infondée.
Oui, là. Exactement, mais toujours est-il que cette opposition ne fait pas le poids politiquement, ne semble pas faire le poids politiquement.
Alors il faudrait nuancer, parce que l'opposition, enfin, souvenons-nous que Israël a été construit par le Parti travailliste. Hein, Ben Gourion et Golda Meir et d'autres étaient des travaillistes. Et c'est les travaillistes qui ont construit l'État d'Israël et mené à bien la construction de l'État d'Israël. La gauche israélienne aujourd'hui est particulièrement en état de faiblesse. Mais attention, il y a une opposition qui est, qu'on va qualifier de centriste. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, disons que ça fait comprendre qu'ils sont entre la gauche et la droite de Netanyahou, qui aujourd'hui est très forte et qui explique qu'aujourd'hui on est 60% ou pas loin des deux tiers de l'opinion israélienne qui est très critique à l'égard de Netanyahou. Donc,
on peut être critique, mais est-ce qu'ils sacrifieront l'idée de la sécurité?
Mais personne ne. Il n'y a aucun Israélien qui ne sacrifiera l'idée de la sécurité. La préoccupation sécuritaire est forcément au cœur des préoccupations de tous les Israéliens, quelles que soient leurs opinions, et c'est parfaitement légitime. Quand vous avez le Hamas à l'ouest et le Hezbollah au nord, plus quelques autres, sans parler des Houthis qui sont un peu plus loin, sans parler des milices irakiennes, la préoccupation sécuritaire... Israël est quand même entouré de mouvements ou de pays qui veulent sa disparition. Donc, il y a la préoccupation sécuritaire, elle est centrale.
Père Alibert.
Bien, en fait, on retrouve des éléments de débat qui nous ont animés dans la décennie précédente, y compris en France. C'est que quand la sécurité de la nation est en danger, la question dépasse finalement la démocratie au quotidien. Donc on a eu nos lois d'exception, on a eu nos états d'urgence, on a eu face au Covid un état sanitaire qui avait drastiquement contraint nos libertés avec le confinement, etc. Donc à un moment donné, il y a dans nos sociétés, dans le ressort de nos sociétés, un élément qui fait que la sécurité va prévaloir sur l'idéal démocratique. Alors non pas la démocratie en tant qu'horizon, qui reste valable. Mais les attendus concrets, quotidiens, habituels de la démocratie... Voilà, je prends un autre exemple qui n'est pas français et qui est actuel, et ça se passe en Allemagne. En Allemagne, l'heure est au réarmement. L'Allemagne en a absolument besoin parce que son armée n'est que l'ombre d'une armée par rapport à la grande puissance qu'est l'Allemagne. Or, pour réarmer, l'Allemagne a besoin de réformer sa constitution parce que sinon elle ne peut pas créer un déficit qui permettrait de financer le réarmement. Donc, sous couvert de questions budgétaires, en fait, la question, elle est assez fondamentale. Or, dans la nouvelle assemblée qui va siéger, la majorité des 3/5 pour la réforme constitutionnelle n'est pas assurée. Tandis que dans l'Assemblée actuelle, c'est possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Allemands sont en train de dire « Nous allons voter une réforme de la Constitution absolument, absolument majeure et qui, par l'ancienne Assemblée, alors qu'une nouvelle Assemblée a été élue, on voit bien, en fait, deux choses. Un, que ce n'est pas normal, parce qu'il y a de nouveaux députés et il y a des élections qui donnent un nouveau paysage politique à l'Allemagne. Et de notre côté, il n'y a plus aucun angélisme qui est possible. Donc ce qui est urgent pour l'Allemagne, c'est de se réarmer, donc de faire passer cette loi. Donc on fait ça très vite, avant qu'il y ait plus de difficultés. Donc,
nécessité fait loi, en quelque sorte.
Voilà, on est dans une forme de compromis, de petits pas, et c'est extrêmement compliqué pour les gouvernants.
J'ajoute
Philippe Guibert.
C'est que, avec cet ancien Parlement, ça a obligé le futur chancelier à passer des compromis avec des forces politiques dont il n'aurait même pas eu besoin dans le nouveau Parlement. Je pense notamment aux écologistes, avec lequel il a dû... Donc, vous avez raison, c'est un peu exceptionnel comme procédure, un peu limite du point de vue du parlementarisme, mais qu'en même temps, il y a eu obligation d'un compromis assez large.
On peut tordre les institutions, on peut tordre les procédures dès lors qu'on estime qu'un état exceptionnel...
C'est un comité de salut public, si vous voulez, qui dit pas son nom. Il y a une forme de prise de conscience où là, la patrie est en danger. Donc,
mais peut-on mettre...
Je pense que la pression en Allemagne, la pression existentielle en Allemagne est beaucoup plus forte qu'en France.
Peut-on mettre les libertés, la démocratie entre parenthèses, c'est une question qui s'est posée pendant le Covid. Hein.
Mais c'est dans quelle mesure? C'est jusqu'où, en fait?
Voilà.
Parce que c'est presque, si vous voulez, c'est l'art de gouverner que d'un moment donné... De faire prévaloir la liberté et de prioriser les axes de liberté. En fait.
Mais ça veut dire que la démocratie, c'est un système de riches partant calme. C'est ça que ça veut dire.
Non,
mais en fait, quand ça va mal, on fait autre chose.
Depuis Hobbes, on sait que la sécurité, dans tous les sens du terme, est le fondement de l'État. Et que dès lors que l'État n'assure plus la sécurité ou l'assure mal, ou donne le sentiment d'augmenter l'insécurité, l'État n'est plus légitime, l'État ou les gouvernants. C'est un invariant du politique, ça. Hein. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui varient en fonction des cultures, des pays, de tout ce que vous voulez, des systèmes politiques. Mais ça, la question de la sécurité, la question sécuritaire, la question existentielle. Et aujourd'hui, dans nos démocraties, l'insécurité physique ou l'insécurité économique et sociale, voire l'insécurité culturelle ou identitaire, sont des dimensions absolument fondamentales du système politique.
La grande différence qu'il y a entre une démocratie et un régime qui ne laisserait pas, c'est que chaque fois que les éléments de restriction des libertés sont mis en place, c'est mis en place dans un débat contradictoire, ou au moins avec un formalisme juridique. Nous avons en France la possibilité pour le chef de l'État de décréter les pleins pouvoirs. Ça, il ne peut pas le faire en se levant le matin. Il est obligé de suivre une procédure. Donc tout ça est extrêmement réglementé. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on n'a pas... La démocratie, disons que les aléas de la démocratie, pour raison de sécurité, ne dissout pas l'état de droit. Là où il y a problème, c'est quand, pour raison de sécurité, l'état de droit est affaibli, voire disparaît. Alors là, effectivement, l'idéal démocratique est en danger.
La sécurité se confond-elle avec le bonheur? Tenez, c'est une transition toute trouvée pour notre troisième sujet. Avec le rapport mondial sur le bonheur publié aujourd'hui, qui nous indique que la Finlande est en tête du classement. Le pays nordique est le plus heureux pour la 8e année consécutive, suivi du Danemark, de l'Islande et de la Suède. À la vérité, ce n'est pas tellement une surprise dans la mesure où ce type d'indice place très souvent les pays nordiques en tête de quantité de sujets qui sont mesurés. La France, elle, est 33e, ce qui est quand même assez bas. Et les États-Unis se trouvent au niveau le plus bas jamais enregistré, à la 24e place. Alors la question, au-delà de cet instrument de mesure, de se poser, et la question qu'on peut se poser, c'est celle du bonheur, en fait. Le bonheur statistique, c'est une chose, mais le bonheur réel, la définition que vous lui donnez et comment le mesurer, voire l'atteindre, ça, c'en est une autre, hein, Père Alibert.
Alors, d'abord, sur la question des sociétés, je pense que c'est aussi un état d'esprit, c'est une façon de considérer qu'on est partie prenante ou non de la décision publique et donc de l'état général du pays. Dans les pays du Nord, il y a la conception, la conviction que tout ça c'est très collaboratif, et donc juger l'état du pays c'est aussi se juger soi-même, alors qu'en France on a plutôt tendance à dire que ce que fait l'état c'est pas ce que j'aurais fait moi, donc effectivement je critique je suis beaucoup plus dur. Voilà. Ensuite, je pense que il y a en France, je pense que toutes les personnes qui sont allées assez longtemps à l'étranger ont sur la France un autre regard quand ils reviennent. C'est-à-dire que il suffit de... Alors, vous savez, il y a un aphorisme qui n'est pas très gentil pour nos amis italiens, donc je le dis rapidement à l'antenne, mais vous ne le répéterez pas, mais on dit en Italie, on se croit au paradis et c'est l'enfer, et en France, c'est l'inverse. Ouais. Bon, voilà, donc je pense que ce qui fait du bien pour les Français, c'est d'aller à l'étranger, de voir que finalement, notre système ne fonctionne pas si mal. Oui,
Philippe Guibert, je remarque que toutes les études d'opinion en France qui sont réalisées sur le bonheur des Français montrent une corrélation très forte avec le niveau de revenu, et plus encore que le niveau de revenu, la capacité à bien boucler ses fins de mois. Et donc, les Français se disent heureux quand ils bouclent leurs fins de mois. Alors, vous allez me dire que c'est une définition très frustre du bonheur, sauf que de boucler sa fin de mois donne une certaine sérénité qui manque quand on ne les boucle pas. Et donc, je suis très frappé en France de voir cette...
L'argent, on y pense quand on n'en a pas.
Voilà, c'est ça. Mais le fait est qu'on a une partie croissante depuis 20 ans des Français qui ne jugent pas, qui ont des fins de mois difficiles, et une partie croissante des Français aussi, c'est ce qu'il y a de plus terrible, qui considèrent que leur vie n'est pas réussie. Et la relation entre ces difficultés financières, économiques, d'insécurité économique, puisqu'on parlait de préoccupations sécuritaires tout à l'heure, d'insécurité économique, et la relation avec la conception que les Français sont du bonheur, est extrêmement forte. Et donc, il faut qu'on y travaille en France pour, effectivement, qu'on sorte de nos mauvaises humeurs chroniques.
Moi, je pense qu'il y a des indicateurs qui montrent quand même que les Français sont heureux, même s'ils ne le disent pas. C'est une natalité qui est quand même plus active, plus dynamique qu'ailleurs, même s'il y a une forte baisse. Mais le différentiel est quand même en faveur de la France par rapport à la moyenne européenne. L'espérance de vie qui est longue, la confiance dans le système de santé, un système gratuit, c'est quand même extrêmement rare aujourd'hui. Donc, en fait, il faudrait pouvoir poser la question, si vous voulez, il faudrait pouvoir comparer ce qui est comparable, ce qui n'est pas possible dans le cadre de ce classement. En revanche, moi, il y a un autre point que je voudrais qu'on puisse s'arrêter, c'est la question de rêve. Est-ce que notre société fait rêver? Voilà. Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait rêver? Alors, on a une partie du sport qui fait rêver, on a nos JO qui ont éclairé notre sentiment national. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui comme élément suffisamment fédérateur qui nous fasse rêver? Quel est le grand projet national qui pourrait emporter l'adhésion des Français? Ça, c'est pas facile.
Mais le bonheur, est-ce que ce n'est pas, Père, une image un peu commerciale d'île déserte et d'océan tout bleu? Non, c'est pas un peu ça.
Je pense que si on réfléchit le bonheur sur la satisfaction des besoins ou des envies, on va pas y arriver. Il faut situer le bonheur sur une forme d'horizon de sens, pour éviter de devoir se dire tous les matins est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Non, si l'injonction au bonheur est un côté commercial, en fait assez impraticable. Pour le commun des
Elle produit des frustrations.
Est-ce qu'on peut... Voilà.
Il faut essayer de trouver le bonheur déjà là, c'est-à-dire le bonheur qui est à notre disposition et qui est devant nous.
Est-ce qu'on peut trouver une définition du bonheur qui serait plus proche de la sérénité et d'une certaine sagesse de maîtrise de ses désirs, ou d'une bonne adéquation de ses désirs et de la réalité, qui peut fournir une certaine sérénité et qui fait que Le bonheur n'est pas... Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que le bonheur, c'est fait pour les cons, si vous me perdonnez cette familiarité mégolienne. Et donc, il faudrait trouver une autre définition du bonheur. À l'évidence, en France, le bonheur, comme je disais tout à l'heure, est très lié à la situation financière.
Mais parce que les études mesurent des statistiques aussi, elles font des statistiques.
Oui, mais enfin, quand même, le lien est...
Mais sur le sens de l'on donne à sa vie, est-ce que...
Mais alors,
et puis, est-ce que les chrétiens ont une parole particulière sur le sujet,
bien sûr, d'ailleurs. Mais c'est l'énorme déficit d'espérance religieuse ou d'espérance laïque, qui est frappant dans notre pays, peut-être pas que dans notre pays, c'est... Nous vivons dans un imaginaire de la menace. Alors chacun a ses menaces et chacun choisit ses menaces, mais le discours public est rempli de menaces. Et donc nous n'avons plus beaucoup d'espérance. Alors, il peut y avoir des espérances individuelles qu'on trouve par exemple dans la foi, mais les espérances collectives, je les vois pas vraiment beaucoup.
On les cherche. Hein.
Je vois les menaces.
Pour finir, je voudrais
dire. Père Alibert, en un mot.
Voilà, on a eu la chance de pouvoir mettre dans nos pages au Journal de la Croix des deux pages de grand bonheur. C'est quand on raconte l'expérience spirituelle de Fabrice Amedeo au large de la Nouvelle-Zélande le 2 janvier 2025. Sa conversion.
Gauthier Vaillant nous en parlait il y a deux jours.
Voilà, on peut aussi parler de la victoire du 15 de France. On a aussi toute une séquence sur l'écologie, où on s'aperçoit que l'écologie, c'est aussi un moment de bonheur pour un certain nombre de personnes. Donc, il y a quand même des gisements de bonheur en France.
Eh bien, un bonheur partagé d'être avec vous ce matin, tout simplement.
Absolument, merci
Philippe
beaucoup.
Guibert et Père Arnaud Alibert, je vous remercie tous les deux. Je rappelle, Père Alibert, que vous êtes à la Croix et Père Philippe Guibert, vous n'êtes pas père encore.
Non,
vous
enfin,
êtes écrivain,
père, d'une autre
d'une autre manière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.